Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Tentons de dire deux ou trois choses à même de vous intéresser. Aujourd'hui, je n'ai pas déroulé le CV complet de mon invité, mais seulement mettre deux points en relief pour montrer qu'il est des mieux placés pour nous proposer, comme plusieurs de celles et ceux qui l'ont précédé à ce micro, son regard sur Montpellier, un regard aiguisé, à la fois par l'observation, la formation et par l'action. Pendant 40 ans, il a été enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Il a ainsi apporté aux étudiants l'éclairage de la sociologie urbaine. Parallèlement, il a été un collaborateur de premier rang de Georges Frêche, de 1987 à 1998 comme chef de cabinet à la mairie, et après un détour aux côtés d'André Vézinet au Conseil général, comme directeur des relations internationales de la région Languedoc-Roussillon. Cet invité, c'est Jean-Pierre Foubert. À Divergence FM, il est chez lui puisqu'il en a été un des piliers, avec notamment « Essais transformés », un rendez-vous autour des essais publié récemment, et « Quoi de neuf ?», l'émission de commentaires et d'analyse de l'actualité avec son compère Olivier Nautal, président de la radio et toujours présent à l'antenne. Nous n'allons pas faire semblant en adoptant le mouvement, donc merci à toi d'avoir répondu à mon invitation.
Merci Alain.
Avant que nous prenions du recul sur notre ville et ses mutations, raconte-nous d'abord ton Montpellier, où tu vis depuis plus de 50 ans, ton Montpellier personnel et peut-être intime. Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui figurent ou pas sur les cartes postales, que tu aimes particulièrement, auxquels tu es attaché, parce que tu les fréquentes ou parce qu'ils sont liés à un souvenir personnel?
Eh bien écoutez, peut-être je vais vous surprendre, mais il y a un lieu, je trouve que les Montpelliérains devraient y aller parce qu'il y a des images complètement fausses, des caricatures, etc. Moi je dirais ce que Georges Frêche a voulu appeler désormais la mousson, et je dirais la paillade.
La paillade.
Parce que la paillade, c'est un lieu, d'abord c'est le lieu qui a fait gagner Georges Frêche en 1977 au niveau des élections, et puis c'est un lieu qui est vivant, qui est plein de d'endroits très différents les uns des autres, où il y a en même temps. Est-ce que les Montpelliérains savent que la Paillade, c'est sans doute le quartier le mieux équipé de Montpellier en termes de services publics, d'équipement, etc. Où il y a le stade. Bon, peut-être demain, avec
Michael
Delafoy, il déménagera. Mais pour l'instant, il y a tout le temps le stade qui permet à son équipe de foot de gagner de semaine en semaine grâce à des acquérants, des classements au championnat. C'est des lieux où il y a un marché vivant, il y a le marché aux puces, des lieux. Alors c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont un peu difficiles,
bien sûr.
Il ne faut pas se le cacher, mais en même temps, ce sont des endroits, une multitude d'endroits qui présentent des charmes et des intérêts. Qui n'a jamais été se balader autour du lac de la Paillade ou de la Maison pour tous, des Maisons pour tous, aussi bien Georges Brassens que Léo Lagrange, etc., etc. Donc c'est un lieu très animé et j'inciterai les gens à aller se balader un petit peu à la Paillade ou la Mousson, comme on dit maintenant, parce que je pense que c'est un des lieux emblématiques de Montpellier. Il y en a d'autres, heureusement.
Sans compter une vie associative très intense.
Alors... Absolument.
On verra si c'est confirmé. Il y a un projet d'émission là, qui serait centré sur la Paillade de la Mousson. On verra si ce projet se confirme dans la grille des programmes là, de l'automne prochain. Mais Divergence va avoir peut-être un œil plus fin sur la Paillade. Et alors, sinon à Montpellier, qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Bon, ce dont tu parles, par exemple, des gens qui sont de passage, amis ou parents, qu'est-ce que tu leur dis, qu'est-ce que tu leur conseilles en te substituant au guide de l'Office du tourisme?
Alors, d'abord, j'ai la chance d'habiter... j'ai plus de voiture. Donc j'habite un lieu qui est emblématique, qui s'appelle Antigone, avec mon vieux copain, malheureusement décédé, Ricardo Beaufil. Si j'avais des amis qui passent par Montpellier, systématiquement je les emmène à un endroit de calme, de paisibilité, etc. C'est Méric.
Oui, domaine de Méric.
Ah oui, avec un souvenir incroyable. J'ai eu la chance, quand j'avais 25 ou 27 ans, de me retrouver à Washington, sur la National Gallery. Je rentre et il y a une salle réservée aux impressionnistes. Je vois un tableau, je me dis, mais c'est incroyable, on dirait Castelnau. Donc je rentre et en fait, c'était le tableau qui avait été peint par Basile, oui, et qui est la vue du vieux Castelnau.
De Méric, voilà.
Ça, c'est le lieu où un jour j'aimerais pouvoir m'installer. Mais bon, on sait ce qu'il est advenu. Oui. Je ne suis ni peintre, ni
susceptible. Il y a un parvas des animations, la mise en valeur de la végétalisation, ouais, et un projet de rénovation.
Et je comprends que Basile, la famille Basile s'y soit installée, parce que c'est un lieu tellement beau, tellement calme, tellement paisible.
Alors, ici, on est Montpellier, je crois que c'est clair, mais ce n'est pas l'office de tourisme. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui te séduisent moins, voire qui te déplaisent à Montpellier, entre nous, là, hein, donc, sur lequel peut-être il faudrait porter un effort, ou en tout cas, qui donne une vision un peu plus nuancée de notre belle et grande ville.
Alors, moi, je pense que le problème, c'est qu'on juge l'évolution d'une ville, de quelque ville que ce soit, en fonction de ce qui a préconisé des décisions à un moment donné. Et que ces décisions, et c'est là qu'on voit si un urbanisme est efficace ou pas, c'est des décisions peut-être efficaces à court terme, pas forcément à moyen terme, et encore moins à long terme. Et donc, je pense que ce qui apparaît comme une erreur maintenant a pu être quelque chose qui s'est avéré...
Ouais, qui était pertinent et fondé au départ.
Absolument. Et donc, moi, je suis prudent par rapport à ça. Regardez quand François Delmas, le prédécesseur de Georges Frêche, décide de faire le polygone, ouais, le centre commercial du polygone, qui est... une des explications de sa défaite, d'ailleurs, il faut bien le dire, il bloque la ville.
C'est-à-dire, on l'a bien vu, parce qu'il a fallu des années pour qu'on puisse traverser à pied le polygone, voilà, qui était le signe manifeste de ce mur de béton qui faisait obstacle.
Absolument. Donc, est-ce qu'on peut dire que François Delmas a eu tort de faire ça? À ce moment-là, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'elle a eu tort de faire la paillade avec l'arrivée massive des pieds noirs en 1962, ou la cité Saint-Martin, dont on dit maintenant que c'est un haut lieu de délinquance, etc., ou certains quartiers de la paillade? Je ne le sais pas. Heureusement, je pense que la politique, ça n'est pas le jugement qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé, mais sur ce qu'on doit faire demain.
Oui. Et c'est un côté qu'il y a le regard de l'historien qui, 30, 40 ans ou 50 ans plus tard, absolument, se penche sur ces décisions et leurs effets positifs ou négatifs.
Absolument.
Alors, avançons. Alors, petit exercice. Selon toi, quels sont les mots, la manière de décrire le style de Montpellier, ce qu'est Montpellier et en quoi Montpellier, pour le coup, se distingue d'autres métropoles, soit des métropoles françaises, hein, France entière, soit des grandes villes de la métropole méditerranéenne? Quel est la Montpellier touch, comme on dit en occitan?
Oui, alors moi le sentiment que j'ai, c'est que c'est vrai que j'ai travaillé avec lui pendant, pendant 40 ans, donc je ne veux pas critiquer sa position, mais c'est vrai que je pense que l'idée qu'avait Georges Frêche, c'est de dire la ville, ce n'est pas simplement qu'un conglomérat de constructions, etc. Mmh. C'est... faire venir des grands architectes, c'est aussi une manière de communiquer la ville à l'extérieur. Développer la culture, c'est aussi pouvoir faire parler de Montpellier partout. Accueillir René Koering avec son festival de Radio France, c'était la possibilité de faire parler de Montpellier sur les ondes au niveau international, etc. etc.
Donc plusieurs formes de rayonnement, pour le coup.
Oui, hein, mais c'est...
Dans le bâti, dans les activités culturelles...
Le sport... Moi, je me souviens quand Montpellier a battu Eindhoven dans le domaine de la Coupe d'Europe, parce qu'ils avaient gagné la Coupe de France au foot l'année précédente. Il y a l'équivalent du journal L'Équipe qui avait dit « Tiens, Montpellier, c'est quoi ?» Personne ne savait.
Donc, mettre Montpellier sur la carte de France, à coup sûr, et de l'Europe également, c'était ça le...
Mais ça veut dire que dans les 15 jours qui ont suivi, il y a des entreprises hollandaises qui ont téléphoné le district à l'époque en disant « à Montpellier, vous faites quoi ?» etc. Et il y a des entreprises qui sont dû s'installer à Montpellier parce que l'équipe de foot de Montpellier avait battu l'équipe d'Eindhoven, qui était championne d'Europe l'année précédente. Donc, je pense que la manière de voir la ville comme ça, c'était de dire « rien ». Où tout est dans tout. C'est-à-dire que on ne parle pas d'urbanisme ou de ville simplement comme, je le disais tout à l'heure, un conglomérat de bâtis, mais c'est tout. C'est-à-dire la culture, l'urbanisme, le sport, tout ce qui communiquait, tout ce qui faisait partie, disons, de ce qui pouvait faire la réputation de Montpellier, était à prendre en compte de la même manière. Et je pense que ça a été la force, effectivement, de Georges Frêche par rapport à son prédécesseur qui était plutôt du style Montpellier ou Montpellierin.
Oui. Alors du coup, est-ce que ce phénomène, bon, on y reviendra sous d'autres angles, est-ce que ça induit, le mot peut-être pas exact, un patriotisme montpelliérain, en tout cas, des raisons particulières d'une fierté montpelliéraine qui s'est appuyée là-dessus, quoi, sur ces éléments constitutifs de cette ville en mouvement et, me semble-t-il, du déploiement de ses activités, quelles qu'elles soient.
Alors, si je voulais être un petit peu, pas ironique, mais je dirais, on a un double phénomène. On a, je ne sais pas, les chiffres ont peut-être évolué, mais quand j'avais les chiffres précis à l'époque, on disait que seulement 21% des gens qui habitaient à Montpellier étaient des Montpelliérains. Ouais,
dit un peu moins maintenant, on dit 15 ou 16%.
Voilà. Moi, ça fait 53 ans ou 54 ans que j'habite à Montpellier, donc j'ai l'impression d'être un très vieux Montpelliérain. Mais j'ai le sentiment qu'on a deux populations. On a d'une part des tas de gens qui viennent s'installer à Montpellier, qui sont fiers d'habiter à Montpellier parce qu'on parle de Montpellier, parce que c'est une ville dynamique, parce qu'il s'y passe mille choses, etc. Et en même temps, d'anciens Montpelliérains, dont certains d'ailleurs sont aussi fiers d'être à Montpellier, parce qu'on parle d'eux, mais en même temps qui disent « Ah oui, mais j'ai cette espèce de nostalgie du Montpellier que j'ai connu, moi qui suis baron de Caravette, c'est-à-dire j'ai deux, trois générations de Montpelliérains derrière moi. » Mais ça me paraît bien, je trouve que c'est bien que des gens soient des nostalgiques de cet ancien Montpellier, et en même temps des gens qui, comme moi, sont, disons, dans l'intermédiaire, c'est-à-dire je ne suis pas né à Montpellier, mais et qui dit « Tiens, j'ai vu changer Montpellier et finalement je peux avoir un regard critique de ce que peut-être j'aurais aimé que Montpellier se transforme peut-être autrement sur certains points, et en même temps je comprends la nostalgie des anciens Montpelliérains. Je leur en veux pas, c'est bien.
Oui, c'est un attachement qui est respectable, c'est
moi,
ça.
Moi j'avais un père qui déménageait tous les deux ans, et donc tout d'un coup me retrouver dans une ville comme ça et de me dire tiens, finalement mes racines sont là, je trouve que c'est bien.
Alors, le nom de Georges Frêche a été évoqué, donc il était difficile de ne pas le faire, vu ton parcours, vu le rôle qu'il a eu, quoi qu'on puisse en penser, dans la trajectoire de Montpellier. La ville d'aujourd'hui a été marquée par un certain nombre de responsables, mais par un binôme, Georges Frêche, le maire, et Raymond Dugrand, adjoint à l'urbanisme.
Absolument.
Géographe, mais homme d'action, comment s'est passé le rapport respectif pour produire ce qu'on a vu ensuite à la fin des années 70 et à fortiori plus encore pendant les années 80?
Je pense que Raymond Dugrand, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur à la Fac de Lettres, à Paul Valéry, Raymond Dugrand avait une vision assez... pas révolutionnaire, mais il était de son temps, de son époque au niveau universitaire. C'est-à-dire qu'il reposait les problèmes de manière plus globale. Il aurait pu être sociologue, il aurait pu être faire de la psychosociale, etc., etc. Il était géographe, il est de la grande école des Georges, etc., etc. Et donc, je pense qu'il a amené à Georges Frêche une pensée et surtout une rigueur dans la manière de de développer la ville, y compris d'ailleurs de manière un peu brutale. Moi, je me souviens de l'utilisation qu'il avait du droit de préemption.
Oui, c'est-à-dire la gestion du foncier des terrains.
Absolument.
Prise en charge solidement par la collectivité publique.
Absolument.
Donc avec, sans ignorer bien sûr, le rôle que les acteurs privés, les promoteurs notamment, pouvaient avoir.
Oui, moi je sais que pour avoir réfléchi à ce genre de problème avant l'arrivée de Georges Frêche à la mairie et de Raymond Dugrand comme adjoint à l'urbanisme, moi je me souviens qu'en gros, selon le promoteur qui mettait la main sur un terrain vide à Montpellier et que ce promoteur était plutôt spécialisé dans le lotissement avec des petites maisons ou dans la construction d'immeubles, on avait tartiné le sud de Montpellier et de ce que Alain Jansac, qui fut l'architecte de la ville après l'élection municipale de 1977, appelait le ventre mou de Montpellier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de structuration. Vous aviez des routes dans des lotissements qui aboutissaient dans les cul-de-sac. Il n'y avait pas de...
Pas de vision d'ensemble.
Non, pas de vision d'ensemble. Et que Raymond Dugrand a dit, il faut arrêter avec ça et il faut maîtriser l'espace. Et donc, je pense qu'il l'a très bien fait en utilisant les règles. D'ailleurs, Montpellier n'est pas devenu une dictature urbanistique, mais il a simplement appliqué les lois et il a effectivement contrôlé le développement de la ville. Et quand on compare ce qui s'est passé, par exemple, à Aix-en-Provence, qui pouvait être un petit peu comparable à Montpellier, on avait tout simplement une maîtrise du coût urbain qui était deux fois inférieure à ce qui se passait à Aix-en-Provence à l'époque.
Alors, on vient de jeter un regard rapide, rapide sur cette époque et sur le début de cette mutation de Montpellier. Mm-hmm. Alors, pour qu'on s'y retrouve, est-ce que tu peux, à grands traits, notamment, en tout cas, nous donner un peu les grandes phases, les grandes séquences que la ville a connues, hein, parce que bon... Il y a eu le top départ en quelque sorte de 77. Bon, les décennies sont écoulées. Le contexte dans lequel la ville évoluait, local et national, voire international, le contexte économique, la concurrence entre grandes villes, tout ça, bien sûr, a joué un rôle. Comment on peut donner quelques repères aux auditeurs sur ces grandes phases ou ces grandes mutations que la ville a pu connaître pendant ces quatre décennies?
Alors, moi, je pense que la première chose, c'est d'abord de constater quelles étaient les potentialités urbanistiques de Montpellier. Bon, c'est-à-dire constater qu'à Montpellier, il y avait énormément de fonciers libres.
Et notamment les terrains militaires qui sont maintenant au centre de la ville, qui ont produit le polygone et ensuite Antigone. Bon, ça aussi, c'est un atout qui était là, quoi, mais qui restait à exploiter complètement, pour le coup.
Oui, alors il y avait les terrains militaires, mais il y avait aussi les terrains qui appartenaient directement et indirectement au clergé. Il y avait d'immenses propriétés, je pense à Saint-Odile ou des choses comme ça, d'énormes, terrains disponibles, possibles. C'est vrai que le départ des militaires de Montpellier a libéré des espaces. On voit que, au niveau de la ville, il y avait des possibilités d'extension vers le sud, on en parle encore actuellement, et qu'une des idées de Raymond Dugrand et de Georges Frêche, c'était de développer la ville dans un espace qui débordait la ville. C'est-à-dire qu'il était persuadé que cette espèce de gestion administrative avec des communes, avec des associations de communes qui s'appelaient le district à l'époque. Quand moi je suis arrivé à Montpellier, il y avait 6 communes dans le district, il y en a 31 maintenant. Son idée, c'était de dépasser la structuration politique.
Communale, oui.
Voilà, non mais politique, c'est-à-dire les rapports de force politique devaient être dépassés au sens de l'intérêt commun. Ce qui n'a pas d'ailleurs été...
Toujours simple.
Toujours simple, parce que Montpellier était perçu comme c'était la grosse ville, comme l'ennemi éventuel, la richesse qui allait englober et absorber les communes moins riches, etc. Alors que l'idée de Frêche, c'était de créer une espèce de dynamique dont on a parlé et que beaucoup de gens oublient, qui était de faire une espèce de grande communauté urbaine qui irait de, en tout cas de Lille, de, pardon, Pas de livre.
Pas tout à fait.
Quoique. Non, je plaisante. De Lunel à 7, mais qui pouvait être effectivement, qui pouvait aller même jusqu'à Nîmes, donc, et pas Lille.
Pauvre Martin. Oui, alors, c'est une vision large du territoire, bon, pour prendre un mot qu'on emploie souvent actuellement, oui, qui était à la mesure des enjeux et des questions à traiter pour le coup, et pas simplement dans la limite administrative.
Oui, avec cette idée que les limites administratives étaient des freins à des volontés communes de développement, alors que dans l'autre sens, c'était pris comme une espèce de volonté presque absolutiste de Frech de phagocyter le territoire, alors que ce n'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était de profiter de cette dynamique fantastique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les relations que Georges Frech a eues, alors qu'il n'avait pas forcément les mêmes opinions et la même base idéologique, quand je vois les accords qui avaient été passés avec Bousquet
avec le patron de Jean Cacharel, Bousquet, le maire de Nîmes à l'époque,
voilà, hein, qui était le patron de Cacharel, etc., et qui avait une vision très culturelle, etc., qui pouvait intéresser Georges Frech, bon, etc. On pourrait citer 10 ou 20 exemples comme ça de ce type, quoi.
Alors, chacun comprend, bon, tu pourrais nous raconter encore bien d'autres choses, oui, à mettre en lief pour comprendre le Montpellier d'aujourd'hui. Alors, venons au Montpellier d'aujourd'hui. Mm-hmm. Autant le dire clairement, tu es un ami politique du maire actuel, Michael Delafosse. Oui. Peux-tu, à partir de ton expérience que tu viens d'évoquer, nous dire en tant qu'habitant et peut-être en tant que citoyen ce que tu penses des politiques qui ont été conduites depuis l'été 2020 en termes d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat? En gros, quelle est la manière dont Michael Delafosse, qui a été agent de l'urbanisme il y a quelques années, donc qui n'arrivait pas de la Lune,
prend en
compte
culture,
voilà,
et de la culture.
Mmh. Donc, en effet, revoilà, et la culture et l'urbanisme liés dans le parcours antérieur d'une maire actuelle. Alors voilà, un regard là, j'imagine que tu n'as pas été inattentif à ce qui s'est passé depuis bientôt 2 ans et demi.
Bien sûr. Alors, je vais être démagogique.
Allez, allons-y. Voilà. Quand on l'annonce à l'avance, ce n'est peut-être non, pas de la démagogie pour le
voilà
coup.
Michael Delafosse, il a 42, 43, 44 ans. Bon. Moi, j'ai 30 ans de plus que lui. Je viens d'avoir 75 ans. Donc, l'action politique, elle n'est pas nécessairement faite pour moi, pour des gens de ma génération. Elle est faite... Parce que l'urbanisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on fait des choses à court terme, mais on espère que ça va marcher à moyen terme et à long terme. Donc moi, dans 30 ans, j'aurai... Adieu, je ne sais pas qui ça, oui. Voilà, j'aurai 105 ans, donc c'est pas pour moi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les décisions qui sont prises maintenant et qui vont permettre effectivement de voir se réaliser... par les gens qui sont actuellement au pouvoir et qui ont été élus démocratiquement, quoi qu'en disent les uns et les autres, eh bien, ils vont pouvoir mesurer, effectivement, le fait qu'ils ont eu raison ou tort de prendre telle ou telle décision. Donc moi, je n'ai pas envie... Je peux avoir un point de vue en disant « Oh là là, voilà, j'ai plus de voiture, je me balade en tramway ». Alors c'est vrai qu'il y a les travaux sur les rails, et donc j'entendais les gens dans le tramway disant « Oh, il y en a marre maintenant », etc. Oui, mais dans 6 mois, ce sera bon. Donc il faut que les gens comprennent que, comment dire, préparer la ville... réparer la ville, ce qui est, comment dire, une nécessité, mais surtout préparer la ville de demain, c'est ça la magie de la politique. C'est le charme de la politique. C'est-à-dire, en permanence, être toujours à l'action, être toujours en mouvement. Donc, bien sûr, je pourrais faire des critiques, mais ces critiques, je dirais, elles sont presque parce que j'ai une gêne qui est momentanée, etc., dont j'espère que demain, elle sera absorbée par les décisions qui seront prises. Donc, je n'ai pas envie de critiquer. Voilà.
Pourquoi... Alors, ceci dit, est-ce que l'impatience des habitants, est-ce qu'elle n'est pas plus vive aujourd'hui? Est-ce que... On se souvient que quand a été créé la première ligne de tramway, quand le tunnel sous la Comédie, on ne peut pas dire que ça a créé un grand engouement des riverains ou des commerçants.
Absolument.
Mais est-ce que là, aujourd'hui, pour le coup, dans la vie publique, voire dans la vie politique, il y a un impératif, je dirais, d'une urgence qui n'a pas toujours lieu d'être?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, les gens sont en attente. Alors, est-ce que éventuellement ils sont dans une perspective d'attente énorme parce qu'ils ont eu l'impression que le prédécesseur bien connu de Michel de la Fosse, de Philippe Sorel, d'Hélène Mandroux, etc., il avait enclenché des procédures urbanistiques qui ont créé des conflits et des tensions. Et puis, finalement, ça s'est avéré être positif à terme. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas encore dans la tête de dire « Ouais, mais... » Parce que j'entends ça souvent,
oui,
en disant
«
Tiens, Fraîche, ça au moins il l'avait fait, etc. » Oui, mais il l'a fait quelquefois avec cinq. Vous pensez que quand il a décidé d'excaver le bout de l'esplanade pour en faire le quorum,
ça n'a pas suscité de l'enthousiasme généralisé.
Pour les anciens Montpellierains, rappelez-vous des micro-couliers de la place de la Canorgue. Et dont beaucoup se disent « Peut-être que si le parking avait été fait sur la place de la Canorgue, on n'aurait pas ce genre de problème. » Donc, si vous voulez, moi, je pense que il y a peut-être une impatience qui est liée au fait que tout d'un coup, la nouvelle municipalité, enfin, celle où Michel de la Fosse, dont Michel de la Fosse préside, les gens ont l'impression que tout est fait en même temps.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chantiers, on peut le dire.
L'accumulation de choses. Ouais. Alors, ils peuvent se dire, mais pourquoi est-ce que ça veut dire que ça remet en cause les deux municipalités précédentes, voire les trois d'ailleurs, sur certains points de vue, et qui des choses qui n'ont pas été faites ou qui ont été laissées de côté? Je sais pas. Moi, je pense que c'est un pari. C'est-à-dire, il faut, à un moment donné, prendre des décisions. Là, il y avait le problème de circulation d'une ville qui était sans doute encombrée, une ville qui avait besoin de se développer autrement, et puis l'arrivée d'une nouvelle problématique qui était celle d'une réflexion écologique. Et donc, forcément, avec des nécessités de prendre des virages avec des circuits, je vais faire un peu du mauvais humour, des virages protégés avec des lignes pour vélo bien marquées.
D'accord. Alors, on s'achemine vers la fin de l'émission, quand même quelques vues là, bon, plus générales. Aujourd'hui, quels sont les atouts de Montpellier? Donc, il y a une concurrence entre villes pour attirer des investisseurs, pour attirer des habitants. Pour attirer des visiteurs, des touristes aussi, et cette concurrence qui, me semble-t-il, s'est avivée là, depuis une dizaine d'années, quels sont les atouts de Montpellier aujourd'hui? Voilà, en tout cas, et peut-être ceux qu'il faut renforcer pour que Montpellier continue dans sa trajectoire.
Alors, moi, je crois que le véritable problème, il n'est pas lié exclusivement à Montpellier, c'est le fait que le développement de la ville, je dirais démographiquement, est énorme. C'est-à-dire que je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais je crois qu'il y a chaque mois, il y a 1200 nouveaux habitants dans l'Hérault, dont 800 ou 900 sur l'agglomération de Montpellier.
Environ 7000 habitants de plus par an à Montpellier.
Voilà. Alors, c'est des gens qui viennent pour mille raisons, soit parce qu'ils ont trouvé un travail, soit parce qu'ils espèrent en trouver un, etc., etc. Donc je pense que le vrai problème qui existe à Montpellier depuis, je dirais, allez, 40 ou 50 ans, c'est le fait que ces gens puissent, s'installer,
Se loger, mettre leurs enfants à l'école,
absolument.
Etc.
Donc ça veut dire développer du service public, mais en même temps essayer de contrôler le développement, je dirais, du prix, du foncier, dans des secteurs de plus en plus larges. Donc il y a un problème de développement de l'emploi sur la métropole de Montpellier. Pour pouvoir accueillir effectivement ces gens qui viennent s'installer et d'essayer de contrôler. Mais c'était le même problème il y a 50 ans, ou 40 ans, peut-être moins accru à l'époque, mais je pense qu'effectivement c'est une véritable question à gérer. Qui est le problème? Il y a 10 bouquins qui sont sortis dans les 10 dernières années, qui est le problème de la métropolisation. C'est ça le véritable problème.
Ça appellerait d'autres questions, bien entendu.
Oui.
Alors, on va boucler la boucle en revenant à Jean-Pierre Foubert, le promeneur de Montpellier. Mmh. Peut-être un petit conseil pour nos auditeurs et auditrices, pas quoi, un lieu, un restaurant, une petite découverte hein, que vous nous proposeriez.
Ah, alors ça c'est un... Je ne ferai pas de publicité pour tel et tel restaurant. J'en connais 10, 20 à Montpellier. Des faciles d'accès, pas chers, d'autres plus huppés, etc. Que je pourrais conseiller. Des lieux où s'installer. Il y a un endroit que j'aime bien, qui est la place qui est derrière, qui se trouve au centre-ville, dans le vieux Montpellier, qui est la place qui se trouve derrière les Halles, comme en Castellane, qui est sympa, parce que ici, ça bouge. J'aime bien la place Saint-Ravi, qui n'est pas très loin. Mais j'aime quelque chose, un lieu qui n'est pas très loin de chez moi, qui est le petit bistrot des Halles Jacques Coeur, à Antigone, ou un resto... Allez, je vais lui faire de la pub, parce que je l'aime bien.
C'est gratuit, en plus. Hein.
Ouais, ouais. J'aime bien Monsieur Jules, près de la place du Nombre d'Or.
Très bien. Ben, merci de ce parcours, Jean-Pierre Foubert, et peut-être une prochaine fois
J'espère.
Pour se pencher sur le futur Montpellier. Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.